on va éviter tous les discours qui seraient simplistes ou réducteurs ou caricaturaux. Il faut tout de suite dire qu'il y a un faisceau de facteurs qui conduisent à cette situation, avec un contexte social particulier de la Guyane les chiffres là et qui justifient le passage massif de l'académie dans l'éducation prioritaire sont vraiment des enfants dans des situations avec des familles considérées comme défavorisées. Ceci dit, ce qui reste tout à fait important, là je m'appuie sur une étude de l'INSEE, c'est que le fait de n'avoir pas le français comme langue étrangère, ça demeure le plus grand facteur d'écart de probabilité avec la référence. Alors, simplement pour expliciter cela, l'INSEE a créé une sorte de référence. Cette référence, je vous la donne. Alors, l'individu de référence, il est primo-scolarisé en Guyane. En France, pardonnez-moi, enfin sur le territoire français. Entre l'âge de 4 et 5 ans, le niveau de vie au sein de la famille est modeste et il lit au moins de temps en temps. Ses deux parents l'élèvent et au moins l'un d'eux a un diplôme. Et il n'y a eu aucun accident de la vie majeure durant l'enfance. Cet individu de référence, il a 14% de chances d'être en situation préoccupante à l'écrit. Après, l'INSEE a fait varier l'ensemble des facteurs que je viens de vous donner. Et on observe que quand on fait varier le facteur ne pas avoir le avoir ou pas, ou ne pas avoir le français comme langue maternelle, c'est celui-là qui crée le plus grand décalage avec l'individu de référence. Ce décalage, il est de 40%. C'est-à-dire que le même individu, dans les mêmes conditions sociales, s'il n'a pas le français comme langue maternelle, passe à 50% de malchance, d'être en situation préoccupante face à l'écrit. Vous voyez bien quelles sont les conclusions dangereuses qu'on peut tirer de cela, cette conclusion très dangereuse du handicap linguistique. Donc, la question qui nous revient de nous poser face à l'école en Guyane, c'est comment déjouer cette fatalité, qui n'est en fait qu'illusoire à mon sens, du fameux handicap linguistique. Pour essayer de répondre à cette question, je vous présente finalement trois lignes qui seront les miennes ici. Les élèves et le français en Guyane, une histoire complexe. On est ici au niveau des représentations et des représentations des élèves, les représentations que se font les élèves de la langue française en particulier, leur rapport très singulier avec cette langue. Toujours dans le champ des représentations, je m'intéresserai dans un deuxième temps à celle des enseignants et surtout aux conséquences didactiques de ces représentations qu'ont les enseignants sur l'enseignement de la langue et sur les besoins des élèves quant à l'enseignement de la langue. Et enfin, ça me permettra d'arriver à quelques préconisations pédagogiques récurrentes et, de façon sans doute pas si surprenante, ce qui se trouve être à peu près les mêmes en Guyane ou celles que je peux aujourd'hui mener dans des entretiens d'inspection dans l'Académie de Créteil. Vous voyez, il va s'agir beaucoup de représentations. Et les représentations, pour la Guyane, c'est quelque chose qui fait souvent mal. Je ne sais pas quelles sont les vôtres par rapport à ce territoire, sans doute un peu plus éclairées que celle de la Doxa. Mais les élèves, ce qu'il faut savoir, c'est que les élèves de Guyane sont tout à fait conscients des représentations négatives liées à leur territoire. Et face à pour lutter contre ces représentations négatives, il y a un outil qui me semble absolument formidable et pour faire avancer les représentations, au moins dans le regard des élèves de Guyane. Et cet outil, c'est la littérature. Je suis confuse de désigner par ce mot d'outil. Du coup, je ne résiste pas à vous donner, parce que j'essaierai de temps en temps de mettre des extraits de littérature guyanaise dans cette présentation. Je ne résiste pas donc à vous donner cette petite bribe d'un poème de Serge Patient, qui est un poète guyanais. Merde à l'exotisme, poupée de pacotille, adieu madras, adieu foulard, doudou dodu. Vous l'avez compris, et ce n'est donc naturellement pas ce que vous attendiez, j'en suis sûre, ni Sophie Albi tout à l'heure, ni moi-même, ne nous livrerons à un regard visant l'exotisme guyanais. En revanche, donc, on revient à cette question des représentations. Le constat qu'on peut faire, c'est que le rapport à la langue française en Guyane semble doublement marqué par la contrainte. D'abord, ce que j'ai appelé en diachronie, donc, la langue française apparaît, et il me semble, c'est un positionnement personnel hein, que j'assume. Il me semble qu'elle apparaît toujours comme, d'une certaine manière, et quand on n'y prend pas garde, comme un outil de l'assimilation et donc un héritage colonial. Ici, je vous ai donc mis un poème qui est sans doute un peu plus connu, qui est un poème de Léon Gontran Damas, un des compagnons de Césaire et de Senghor et de la négritude. C'est un extrait de ce poème « Ok », qui est un des poèmes les plus connus de Damas. « Vous ai-je dit ou non qu'il vous fallait parler français ? Le français de France, le français du français, le français français. Désastre, parlez-moi du désastre, parlez-moi. » Ces trois derniers vers constituent une sorte de refrain dans le poème. Poème qui, je le précise, se termine par vous savez qu'on ne souffre chez nous ni banjo ni guitare, les mulâtres ne font pas ça, laissez donc ça aux nègres. Donc ici, on le voit bien, la langue française peut, si l'on y prend garde encore une fois, revêtir l'aspect d'une arme de l'assimilation. Ça a été le cas longtemps, jusqu'à ce que Césaire la brandisse en retour pour en faire une arme miraculeuse. Mais c'est quelque chose qui me semble encore assez perceptible de temps en temps dans certaines classes de Guyane. Et puis, en synchronie, là c'est un constat plus factuel, la langue française, c'est la langue de l'école, deuxième facteur de contrainte. Ici, je ne me lancerai vraiment pas dans une analyse aussi précise et passionnante que sera celle de Sophie Albi sur... sur la richesse des langues de Guyane. Simplement, pour clarifier encore une fois de quoi l'on parle, j'ai dressé une sorte de typologie des classes de Guyane. Une typologie donc qui sera assumée comme relativement schématique. Alors, une petite carte de la Guyane pour se repérer. Dans les deux grandes villes du centre littoral, que sont Cayenne et Kourou, et j'ai un tout petit peu étendu, sur les collèges, les quelques collèges qui se trouvent entre les deux villes et même jusqu'à Sinnamary, je ne sais pas si vous voyez. Les profils de classe dans ces 17 collèges et ces 8 lycées et des écoles élémentaires que je n'ai malheureusement pas pu compter. Dans les classes, on a environ un tiers des élèves qui ont le français comme langue parlée à la maison, plus souvent comme l'une des langues parlées à la maison. Là, j'évoque le cas en particulier des familles créoles, où le français est souvent considéré comme la langue officielle de la maison, tandis que le créole y tient une place variable, toujours un petit peu officieuse, avec des codes un peu mystérieux. L'année dernière, à l'occasion d'un séminaire sur la maîtrise de la langue, on avait pu échanger avec des collègues qui expliquaient que c'est seulement une fois que leurs études ont été accomplies, qu'en tant que personne, il avait été tout à fait clair que leur carrière aussi était accomplie, qu'elles se sont considérées dans le droit de parler en créole avec leurs parents. Avant cela, et dans leur enfance, elles ne se souviennent pas d'avoir parlé créole avec leurs parents. Alors, il s'agit bien sûr là de personnes d'une génération un peu différente de celle de nos élèves, mais en tout cas, je pense que voilà, cette articulation entre français et créole dans les familles créoles reste toujours marquée par quelque chose de pas très simple. Voilà. Et puis surtout, la moitié à deux tiers des élèves, selon les classes, qui parlent à la maison une autre langue que le français. Et alors essentiellement, le haïtien, le brésilien, ou l'une des langues que j'engloberai ici, selon une désignation très large de langue bushinengue, donc ces langues qui sont parlées par les descendants du marronnage. Et je passe sous silence, mais je ne devrais pas beaucoup d'autres langues. L'espagnol est de plus en plus présent en Guyane. Les langues amérindiennes, évidemment. L'anglais ou le créole du Guyana. Voilà, donc, disons, environ une proportion de un tiers ayant le français comme l'une des langues de la maison, deux tiers ne l'ayant pas. Ensuite, on va vers l'ouest, à Saint-Laurent-du-Maroni et sur le fleuve Maroni, jusqu'à Maripasoula à peu près. J'espère que c'est lisible pour vous. À peu près trois quarts des élèves parlent l'une de ces fameuses langues bushinengue que j'évoquais tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est que le plus souvent, y compris quand on est dans un petit village du fleuve, comme Grand Santi, enfin, ça n'est pas un si petit village, hein, mais quand on est dans un village du fleuve, il y a coexistence dans une même classe de plusieurs de ces langues. C'est très rare qu'on ait une classe avec un profil linguistique homogène. Et puis, y compris y compris dans ces classes-là, il y a toujours quelques élèves qui utilisent une autre langue à la maison, soit le brésilien, soit le haïtien, soit une langue amérindienne en particulier. Cette fois-ci, on part complètement à l'est, du côté du Brésil. Il y a ici seulement deux collèges, donc dans les villes de Regina et Saint-Georges. Là, on a sans surprise trois quarts des élèves qui parlent le brésilien à la maison. Et puis jusqu'à un quart, une autre langue, en particulier une langue amérindienne. Et enfin, ça ne concerne pour l'instant qu'un collège, à Camopi, donc toujours à la frontière du Brésil. Les trois quarts des élèves parlent à la maison, au moins les trois quarts des élèves parlent à la maison une langue amérindienne, donc sur Camopi, le Teco ou le Wayampi, et sans doute quelques élèves parlant une autre langue, ne serait-ce que les enfants des professeurs présents sur Camopi. D'où l'on peut tirer finalement que le plurilinguisme est la règle absolument partout, sur le littoral aussi bien que sur le fleuve, mais c'est un plurilinguisme qui a de très nombreux visages. Par conséquent, en termes de didactique et de pédagogie, ça fera autant d'approches à nuancer, à ajuster. Il y a bien sûr des approches fécondes pour enseigner le français face à des classes plurilingues, mais les nuances seront toujours extrêmement importantes. Et puis deuxième remarque, c'est que le même élève en Guyane parle le plus souvent plusieurs langues. Il y a la langue de la mère, la langue du père, ça c'est vraiment une situation fréquente. La langue véhiculaire du quartier est celle de la maison. Et puis beaucoup d'élèves en situation de mobilité, donc qui ont appris les langues des endroits où ils se trouvaient. Donc la langue de l'école, bien souvent, n'est pas la langue seconde, mais la langue troisième, quatrième, etc. Avec, il faut le dire aussi, de très grandes compétences linguistiques, en fait, des élèves de Guyane, compétences qui sont très peu souvent valorisées ou même prises en compte. Maintenant, si on essaye d'aller du côté du regard des élèves, encore un petit détour par la littérature et la littérature guyanaise. Ici, je vous ai présenté un extrait d'un poème d'Elie Stephenson. Elie Stephenson, c'est un poète guyanais qui est économiste de formation. Il faut le signaler, c'est une voix qui est résolument marquée politiquement par le rejet de ce qui lui apparaît comme du néocolonialisme dans le système des DOM. Et ce poème me semble particulièrement intéressant. Ce n'est pas que j'exige le sang, mais je n'aime pas qu'on m'édicte, me décrète, m'enseigne, m'assimile, m'instruise, me détruise, m'infantilise, me gave et m'affame. Alors, je passerai sous silence peut-être le vacillement du sens dans les trois premiers vers, hein, avec une forme de doute sur ces trois vers. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est que l'apparition du « on » qu'on m'édicte coïncide avec la disparition du « je ». Et il me semble que l'enjeu pour nous, c'est que du coup, l'école française en Guyane évite à tout prix d'incarner ce « on ». Que l'école française en Guyane se propose comme objectif de permettre aux élèves de s'approprier le « je ». Le dernier vers m'intéresse particulièrement, ce « me gave et ma femme ». Ça va sans doute être une sorte de fil conducteur pour la suite, dans le lien qu'entretiennent les professeurs ou les élèves à la langue française. D'une certaine manière, on va voir comment certains gavages pédagogiques sont en fait à l'origine d'une forte disette d'apprentissage. Ici, je vous ai restitué des témoignages d'élèves. Il s'agit en fait de petites activités pédagogiques qui ont été conduites en tout début d'année, vous savez, à la place de ces fameuses fiches de présentation des élèves, où ils doivent donner leur nom, leur prénom, etc. Une professeure de français d'un lycée de Saint-Laurent-du-Maroni a demandé aux élèves d'écrire un court texte qui devait commencer par « Le français et moi, une histoire, trois points de suspension ». Donc il fallait qualifier cette histoire et expliquer. J'ai donc sélectionné quelques-uns de ces textes. Je me permets peut-être de le lire. « Le français et moi, une histoire compliquée qui nous lie. Il est si compliqué à conjuguer, peu facile à parler. Il demande à réfléchir profondément et dire exactement sans faute. Moi, j'étais là à faire ce qu'il demandait, essayer de faire le plus juste possible. Le français et moi, toujours là ou là-bas, le français et moi. Le français et moi, une histoire compliquée. Il faut qu'à l'écriture, il faut que tu fais moins de fautes possibles en parlant aussi. » Et faire des dictées. Le français, c'est compliqué parce que imagine qu'on t'envoie au tableau et que tu parles et que tu fais des fautes et les autres élèves rigolent. Ben, si c'est moi, je ne passe plus. Je vous laisse lire celui-là. J'apprécie beaucoup le pourquoi en français on étudie des poèmes, des romans. Et pourquoi on a inventé des verbes qu'on n'utilise pratiquement jamais. Alors, de ces trois textes-là, ce qui ressort, me semble-t-il, c'est un rapport conflictuel à la langue. Pas seulement, hein, j'ai conscience de raccourcir un peu, hein, mais en tout cas, on voit qu'il y a un rapport conflictuel et que la langue française est vécue comme une langue ardue et ingrate. Vous avez vu sans doute revenir ce terme de faute. Et puis les verbes, mon Dieu. Deuxième petite sélection. La langue française est une des langues les plus employées dans le monde, donc il faut bien s'exprimer en français pour quand on va passer les épreuves orales des examens et que les jurys voient que vous savez bien vous exprimer. Le français et moi, une histoire d'amour. Dans mon futur, le français sera très important, car j'aimerais après le lycée faire des études supérieures, mais encore plus avec le français. Mon rêve, c'est de devenir notaire. Je vous laisse méditer ce rêve. Ici, ce qu'on voit, c'est que le français apparaît comme porteur, certes, mais un peu écrasant. Il est le vecteur de l'ambition de l'élève. On verra peut-être ce que je veux dire par cet écrasant, mais que je pense vous voyez assez bien. Et puis quand même, pour ne pas instrumentaliser les écrits des élèves, je vous présente ce dernier témoignage. Le français et moi a une histoire passionnante. Le français me fait plonger dans les mots, dans l'argumentation. Il m'ouvre des portes qui me plaisent assez. Donc je termine par cet élève qui dit que le français ouvre des portes, qui m'intéresse, et des portes liées à la notion de plaisir. On y reviendra. De ce que vous venez de lire, voilà ce que tire un certain nombre d'enseignants, en particulier d'enseignants assez peu formés, puisque je l'ai passé sous silence, mais c'est tout à fait important de le dire. Un nombre très important des professeurs de Guyane est constitué par des professeurs contractuels. En lettres, par exemple, l'année dernière, 40% des professeurs de lettres étaient des professeurs contractuels, et en fait, pour revenir à la typologie que je présentais tout à l'heure, il y a une très forte inégalité sur le territoire. C'est-à-dire qu'à Cayenne et Kourou, on va être à 80% de professeurs titulaires contre 20% de contractuels. À Saint-Laurent et sur le fleuve, c'est entre 80% et 100%. Et les professeurs contractuels que j'ai eu l'occasion de souvent suivre, les conditions font que très souvent, on allait accueillir ces professeurs à l'aéroport, puis on allait les voir 15 jours plus tard, et voilà ce qu'on entendait d'office. Ils n'ont pas les bases. Que faire ? Catastrophe. Alors, ce qui m'intéresse ici, et je passe donc en fait à la deuxième ligne de cette présentation, ce sont donc les représentations de nombreux professeurs quant à l'enseignement de la langue française. Et précaution oratoire, s'il en est besoin, il ne s'agit pas de stigmatiser ces enseignants. Hein. C'est vraiment, en général, poussé par beaucoup de bienveillance et une volonté d'accompagnement sincère des élèves, qu'on en revient à cette notion de base. Simplement, cette notion de base, elle m'a tellement ennuyée que j'ai fini par essayer d'analyser ce qu'elle entraîne comme conséquence didactique. Alors, première conséquence, et là, vous voyez bien que symboliquement, et puis par rapport à la référence architecturale qu'il y a derrière, si on inculque les bases, ça veut dire qu'on fait tabula rasa. Ça veut dire qu'on change les bases de l'élève, qui sont donc sa langue massa ou ses langues maternelles. Et ça serait donc une langue française qui supplante la langue maternelle, et pire, qui vient la disqualifier. Alors, quelques exemples de cela, j'ai entendu très souvent à l'école maternelle, où j'emmenais moi-même mes enfants, des préconisations faites aux parents, brésiliens en particulier, en tout cas c'est cet exemple-là que j'ai en tête, il faut lui parler français. Cesse de lui parler brésilien à la maison, parle-lui français. D'autres choses, sans doute aussi graves. Alors, des choses à nuancer. En cours de français, on parle français. Ça, c'est une phrase qui résonne très souvent. Mais pire, au collège, on parle français. Avec jusqu'à assez récemment, des choses qui étaient notées dans des règlements intérieurs. Bon, les choses ont bougé, hein, mais c'était assez récent. Ou affiché dans la cour du collège. Parce que, encore une fois, pas vraiment par un esprit de méchant colonisateur, hein, mais avec l'idée qu'il faut qu'il s'entraîne à parler français, et donc il faut absolument que dans la cour, il parle français. C'était le cas, c'était une grande préconisation au collège de Camopi en particulier. Ensuite, ça va se traduire aussi par d'autres malentendus. Un exemple, dans un village amérindien, à Wala Yanimapo, qui est dans l'ouest guyanais, il y a une très très grande crainte de la rivalité des langues. C'est-à-dire que les parents d'Awala Yanimapo ont souhaité que leurs enfants n'entrent pas à l'école maternelle avant 4 ans au moins, pour être sûr que le français ne vienne pas supplanter le Wayana, qui est la langue des enfants. Et on voit bien qu'avec cette crainte, à vrai dire, je n'ai pas les outils scientifiques pour vous dire si elle est fondée ou pas. Intuitivement, je dirais plutôt qu'elle ne devrait pas l'être, et que cette histoire de se structurer dans une langue maternelle, je ne suis pas tout à fait sûre qu'en fait... bien sûr, c'est très important, mais cette structure, elle ne se joue pas entre 3 et 4 ans. Et effectivement, si les parents ont eu cette crainte-là, elle est sans doute légitime, et c'était dû à une façon d'aborder la langue française en première section de maternelle. Et puis, vous voyez bien ce qu'il y a derrière et ce qui se joue, c'est la question de la hiérarchie entre les langues. Je vous renvoie à cette référence que je trouve particulièrement riche et intéressante de Terrail de l'oralité, qui explique bien comment, dans un certain nombre d'esprits, et malheureusement c'était le cas, j'ai pu vraiment le confirmer dans des entretiens avec des professeurs, il y avait cette idée que peut-être certaines langues permettaient de façon moins claire l'accès à l'abstraction. Qu'une langue, parce qu'elle est exclusivement orale, n'est pas une langue qui permet d'accéder à une pensée complexe. Donc, il est important de substituer absolument cette langue, moins féconde pour les apprentissages, par la langue française. La façon dont Terrail déconstruit cette idée est particulièrement intéressante et je vous y renvoie. Deuxième conséquence de la notion de base, c'est le discours fataliste et démissionnaire. Le discours fataliste et démissionnaire ne se reconnaît pas toujours comme tel. Il se traduit par le renoncement aux productions écrites, un renoncement massif en Guyane. Un professeur a déclaré c'est traumatisant. Sans qu'on sache vraiment si c'est traumatisant pour lui ou pour les élèves. En tout cas, effectivement, en faisant état d'une grande difficulté de l'écrit. Donc, comme c'est difficile, on ne fait pas écrire les élèves. Le renoncement, encore plus grave, et c'est là que je vous rappelle je ne veux pas qu'on me gave et ma femme. Le renoncement à l'étude d'objets culturels stimulants, comme la découverte de textes littéraires, d'œuvres d'art. Et puis même le renoncement au parcours préconisé dans les instructions officielles. Et là, ça me mettait parfois dans une situation assez paradoxale de dire non, restons accrochés aux programmes nationaux. Cessons de dire il faut absolument tout adapter aux élèves. Vous voyez bien pourquoi. L'adaptation aux élèves, évidemment, est très très importante. Mais pour moi, ces programmes du collège, avec la littérature patrimoniale, etc., parce que jusqu'à cette année, les programmes de 2008 en œuvre au collège en français est très axé sur l'histoire littéraire, la littérature patrimoniale. Sans doute un certain nombre d'entre vous ont une visibilité sur ces programmes. Eh bien, j'étais fervente partisane qu'on s'accroche à ces programmes néanmoins, puisqu'ils étaient le garant que les élèves ne vivent pas dans leurs heures de français que des leçons de grammaire. Troisième conséquence de la notion de base, c'est la vision tout à fait erronée, enfin je ne sais pas si c'est une conséquence ou une cause finalement, une vision tout à fait erronée de la manière dont s'acquiert la maîtrise de la langue. Ce qu'on observe dans les cours du collège, et malheureusement dès l'école élémentaire, c'est une disproportion très large entre ce qui est appelé l'étude de la langue, ou les outils de la langue, et l'entraînement des compétences langagières, donc l'oral en réception et en production, l'écrit en réception et en production. Ici, je vous ai mis, parce que j'emprunte un certain nombre de conclusions à ce rapport, mon prédécesseur, inspecteur pédagogique en Guyane de lettres, avait fait un rapport assez complet, enfin très complet même, basé sur fondé sur des observations de classe de l'école maternelle à la fin du collège, sur la maîtrise de la langue. Et il me semble qu'il y a un constat très frappant dans ce rapport, c'est un constat du recul de la maîtrise de la langue française à l'oral entre la fin de la maternelle. À ce stade, on considérait qu'il y avait quand même de belles réussites de l'entrée dans la langue par les élèves, à la fin du CE2, dirions-nous, où on observait au moins une stagnation, au mieux une stagnation, au pire une régression dans la façon qu'avaient les élèves de prendre la parole en français. On voit bien qu'ici, ce qu'analyse Christian Mendivet, c'est une focalisation très crispée sur l'apprentissage du code, qui de manière absurde finalement échoue parce que ça ne s'appuie pas sur des compétences langagières assez solides. On ne peut pas apprendre à lire une langue qu'on ne parle pas suffisamment bien, qu'on ne pratique pas. Et puis on entre dans un cercle vicieux absurde. Ils ne parlent pas assez, donc ils échouent dans l'apprentissage du code. Du coup, ils ne se voient plus proposer d'autres activités. On va venir juste après. Donc, ils ne progressent pas dans les compétences langagières. Et donc, je vous renvoie aux chiffres que j'avais donnés tout au début. On arrive en sixième sans maîtriser le code. Ce qui a pour conséquence au collège le même cercle vicieux, malheureusement. Alors, je ne voudrais pas encore une fois paraître caricatural. Il y a d'autres raisons, d'autres facteurs sans doute de la difficulté à entrer dans l'écrit, mais ce cercle vicieux-là est très très frappant dans les classes de Guyane, à mon sens. Autre chose, toujours sur cette vision erronée de la manière dont s'acquiert la maîtrise de la langue française, finalement, ce qu'on observe pour l'étude de la langue, et là, sans scrupule, j'étends cela aux observations cristoliennes, c'est un enseignement qui, finalement, n'a rien retenu des propositions spiralaires. Mais encore une fois, je ne stigmatise pas les enseignants, puisque le programme tel qu'il est prévu aujourd'hui au collège n'est pas du tout spiralaire. C'est un enchaînement de notions linéaires. Et dans cette logique linéaire, on est complètement aveugle à son propre échec, c'est-à-dire qu'on va de révision en révision. Les élèves au collège aujourd'hui, encore une fois, là je parle aussi bien des classes que j'observe à Créteil, font en quatrième la même leçon sur le complément circonstanciel que celle qu'ils ont connue en CE2, en CM1, en CM2, avec la même réussite pour ceux qui avaient compris, le même échec pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc finalement, il y a une forme d'aveuglement, je trouve, sur l'impossibilité à réfléchir sur le système linguistique, alors même que la langue n'est pas appropriée, mise en œuvre dans le langage. Et dernière conséquence que j'ai analysée sur les dangers de la notion de base, c'est la nécessaire ségrégation entre ceux qui les ont, les bases, et ceux qui ne les ont pas. Alors en Guyane, on observe de nombreux temps de décloisonnement à l'école élémentaire. Ça veut dire une différenciation des activités en fonction des groupes de lecture, des groupes de niveau de lecture. Et pour les élèves qui n'entrent pas dans le déchiffrage, on reste à des activités de bas niveau cognitivement. Et donc c'est le cercle vicieux en fait que j'analysais tout à l'heure. Et au collège, une conviction, mais encore une fois une conviction bienveillante, qu'on ne pourra pas accompagner les élèves si on ne fait pas des groupes de compétences. Donc on observe des classes mises en barrette, en sixième par exemple, mais parfois en sixième, cinquième, quatrième, des classes mises en barrette pendant tous les cours de français pour les élèves non lecteurs, les petits lecteurs, les lecteurs un peu plus, les lecteurs plus, etc. Et ce qu'on observe aussi, c'est l'absolue inefficacité de ces dispositifs, malheureusement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune porosité, ça fait des effets de tuyau, ces élèves qui entrent en sixième dans tel groupe de compétences, se retrouvent en cinquième dans le même, en quatrième dans une classe qui parfois prend d'autres noms. Alors, il y a effectivement d'autres noms. Parfois, c'est simplement le nom de classe sans note, malheureusement. Je regrette de le dire, mais c'est ça qui se passe parfois en Guyane. La classe socle, la sixième en deux ans. Il y a eu tout ce type d'expérimentation dont on voit bien le caractère stigmatisant, d'une part. Et malheureusement, on le voit bien, mais les élèves le voient tout à fait bien aussi. Et en général, la grande inefficacité. Du coup, ça me permet d'en venir à des points communs de crispation pédagogique que j'observe entre Créteil et Cayenne. Ce que je disais tout à l'heure, la construction du décloisonnement dans l'enseignement de la langue, qui est encore un très très grand chantier au collège. Dans le rapport de Christian Mendivet, il y a une formule que je trouve intéressante. On enseigne en Guyane le français comme on enseignerait mal une langue ancienne, c'est-à-dire comme on enseignerait une langue qu'on considère comme langue morte. On en est à de la grammaire tabulaire, et il est important de signaler que ce débat n'est vraiment pas clos. Sur le deuxième point, Ça, c'est vraiment un des enjeux très importants. La façon dont les professeurs sont attachés à tout ce qui est dispositif de remédiation. Les dispositifs de remédiation induisent de façon quasi nécessaire l'individualisation, en tout cas des effectifs plus réduits, et sans doute des groupes de compétences. Alors, c'était la logique très souvent de l'accompagnement personnalisé en sixième jusqu'à aujourd'hui, ces logiques de remédiation. On voit bien que ce qui est en jeu avec la réforme du collège, c'est d'essayer de dire que l'accompagnement de l'élève ne se joue pas dans la remédiation, mais se joue dans le cours même avec une modification de posture et des gestes pédagogiques. C'est un discours qui est très difficile à faire entendre. Vous voyez bien pourquoi. Il y a le soupçon tout de suite qu'on a là non pas une affaire pédagogique, mais une affaire de moyens. Quand on présente au professeur l'idée que l'accompagnement personnalisé peut se conduire en classe entière, on n'est pas très bien reçu. Ceci dit, moi la première, je considère que c'est très intéressant, en particulier pour travailler l'oral, de temps en temps, de pouvoir travailler avec des petits effectifs. Mais on voit bien que quand on est persuadé qu'il faut absolument individualiser pour remédier dans la langue française, en fait, on est sans doute sur des leviers pédagogiques relativement inefficaces. Et puis, ici, j'ai mis la lecture comme unique compétence évaluée en fin de CM2. J'aurais dû dire en début de sixième plutôt, puisque c'est plutôt ça que je visais. Le fameux test ROC que vous connaissez sans aucun doute et qui est en fait l'alpha et l'oméga de la constitution des fameux groupes de compétences en sixième, sans évaluer l'oral en réception, par exemple, sans évaluer la production d'écrit, etc. En fait, juste, je reviens une dernière fois sur cette histoire de remédiation, pardonnez-moi. Il y a cette idée qu'il faut absolument du service après-vente des cours. Et cette idée était très, très répandue également en Guyane. Il y avait le cours pour les bons et le service après-vente pour les en décrochage. Pour les pas bons, quoi. Et du coup, on ne réinterroge jamais la façon d'enseigner la langue. C'est surtout ça qui pose problème. Alors tout de même, parce que ça serait dommage de s'en priver, faire état des réussites et des pistes très encourageantes, en Guyane en particulier pour cette diapo-là. Finalement, on voit que de plus en plus, il y a cette préoccupation, en particulier au sein de l'ESPE de Guyane et à l'Université de Guyane, mais de plus en plus auprès des corps d'inspection et du coup des enseignants forcément, enfin des enseignants par eux-mêmes aussi bien sûr, d'une authentique démarche de considérer le français comme langue de scolarisation, et donc de valoriser les compétences linguistiques des élèves et les langues maternelles. Ce serait quand même de mauvaise foi que de dire que ça n'existe pas. Ça progresse trop lentement, mais c'est de plus en plus présent. Je pense, Sophie, que tu en parleras du dispositif des ILM. Voilà. Donc ce sont les intervenants en langue maternelle que Sophie présentera. De plus en plus de professeurs sont formés à l'éveil aux langues. Je pense que ça aussi, ça fera partie de ton exposé. Et... on encourage, bien sûr, et on les trouve de plus en plus dans les salles de classe, de nombreuses approches comparatives. Et puis, finalement, toute posture professorale d'écoute des élèves. Ce qui m'intéresse du point de vue de la comparaison avec Créteil, c'est finalement un certain nombre d'avancées. Alors, ne croyez pas que je suis venue surtout pas ici pour vendre la réforme du collège, mais quand même... Il y a un certain nombre d'avancées pédagogiques qui sont souhaitées dans cette réforme-là, qui sont d'ailleurs malheureusement pas toujours ce qu'on perçoit en premier de la réforme. L'importance de valoriser la métacognition, de faire verbaliser les élèves sur ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris, leurs difficultés. Essayer de permettre aux professeurs de découvrir quels sont les véritables écrans entre l'apprentissage et les élèves. Tout ça, finalement, c'est un ensemble de gestes professionnels qui relèvent de l'accompagnement de l'élève et qu'on essaye de promouvoir dans le dispositif accompagnement personnalisé. Malheureusement, c'est souvent le dispositif là qui fait écran à la pédagogie. Deuxième chose qui est menée en Guyane, et là j'en oublie sans doute, là c'est vraiment mon point de vue d'ancienne IPR de Guyane, ce qu'on essayait de conduire. De plus en plus, on essaye de vraiment faire partager la conviction dans le second degré que la maîtrise de la langue est l'affaire de toutes les disciplines. Il va de soi qu'avec 4 heures de français par semaine, ça n'est pas là, et exclusivement là, que peut se jouer le bain linguistique des élèves, c'est une conviction difficile à faire partager. Et je rappelle encore une fois que les professeurs de français ne sont pas les seuls à être peu formés en Guyane, les autres aussi. Et donc, quand on est peu au point avec la didactique des mathématiques, on est peu à l'écoute aussi des formations qui viennent expliquer comment travailler la maîtrise de la langue en mathématiques. Ceci dit, des efforts se déploient, des formateurs sur la maîtrise de la langue se déploient, qui ont été relayés par les formateurs REP+. Et surtout, on arrive aussi à l'idée que c'est dans la formation initiale que tout ça doit être davantage pris en compte, et je pense qu'on commence à y parvenir. Et aussi que ce discours doit être de plus en plus porté par les experts disciplinaires, c'est-à-dire que, très concrètement, en inspection dans le second degré, on demande à nos collègues des autres disciplines de faire état, de faire un point dans l'entretien sur la mise en œuvre de ces préconisations. Et puis, très important, me semble-t-il, la question de l'action sur le climat scolaire dans les collèges de Guyane. C'est vrai tout à fait également dans les collèges ailleurs. Peut-être y a-t-il jusqu'à aujourd'hui une forme de retard dans cette prise en compte de l'importance du climat scolaire. Je m'explique. On est très souvent dans des situations où le fait de faire régner l'ordre est la valeur absolue. Avec très peu de dialogue avec les élèves de la part des surveillants, par exemple. On voit bien comment, dans un collège en particulier, qui est le collège Cataillé à Cayenne, il y a vraiment eu un changement. Je parlais tout à l'heure des représentations. C'est vrai à l'échelle du territoire, c'est vrai également à l'échelle du collège. Les élèves savent bien s'ils sont dans le collège où il ne faut pas être. Et le fait de parvenir à transformer cela avec les élèves, c'est quelque chose qui s'est avéré particulièrement favorable à leurs apprentissages. Et ça a modifié ce qui se passe dans les salles de classe. Et puis, toutes les façons qu'on peut avoir de restaurer donc un lien heureux entre la langue française et les élèves. Alors, un petit détour, parce que semblent nous dire les UPE2A, en Guyane comme à Créteil. Alors, en Guyane, un constat, je ne sais pas s'il est très encourageant, en fait, mais en tout cas, un constat, c'est qu'on observe la réussite fulgurante d'élèves qui arrivent du Suriname, n'ayant jamais pratiqué le français, et qui, en quelques mois de scolarisation en Guyane, parviennent à manier la langue française beaucoup mieux que des élèves scolarisés depuis la maternelle en Guyane. Alors d'abord quelques nuances. Hein. Quand on dit scolarisé depuis la maternelle en Guyane sur le fleuve Maroni, très souvent les élèves ont tendance à aller et venir. Il y a des trous dans la scolarité, il y a des trous dans la présence des enseignants aussi. Donc il faut nuancer cela, mais tout de même, l'idée que ce qui se passe en UPE2A est particulièrement propice aux apprentissages et à l'entrée dans la langue française. Et puis, l'expérience que je vous ai présentée tout à l'heure sur le français et moi, une histoire, j'ai demandé à des collègues enseignants en UPE2A à Créteil de la mener avec leurs élèves. Et vous allez voir, on arrive à des choses un peu différentes. Donc, il s'agit d'élèves de 11 à 15 ans qui sont arrivés depuis moins d'un an dans le système éducatif français. C'est un collège de Villejuif qui est classé REP, mais pas REP+. Le français et moi, une histoire d'amitié. Je lui fais confiance, il m'aide à communiquer des gens. C'est difficile pour qui n'a jamais entendu cette langue. Mais justement, j'aime le français parce qu'il nous donne des courages pour apprendre. À part tout ça, le français, c'est une langue gentille. J'aimerais bien que tout le monde apprenne. Le français, c'est une langue pour connecter quelqu'un, je pense, hein, pour parler avec quelqu'un. Il est très important en France. Dans le français, il y a beaucoup de verbes, quand même. Il est très difficile pour moi, mais j'aime beaucoup le français, il est génial. Avant, j'ai pensé que le français était très facile, maintenant, je connais qu'il est très difficile. Alors, il ne faut pas être tout à fait dans la mauvaise foi, encore une fois, il y a des similitudes. C'est peut-être pas tout à fait représentatif dans le choix que j'ai fait, mais il y a souvent des comparaisons entre le pays d'origine, la langue maternelle et la langue française, et on voit bien à quel point la dimension affective est présente et ambivalente. Il y a une mention fréquente de la difficulté, quand même, toujours cristallisé autour des verbes et des conjugaisons. C'est intéressant, je trouve, comme constat. Mais il y a quand même une nuance importante. Et puis une nuance, alors là, je n'ai pas de données parce que je n'ai pas mené cette expérience en UPE2A en Guyane, mais je peux vous dire que dans le climat de classe, c'était aussi quelque chose de très différent ce qui se passait dans les UPE2A en Guyane. C'était plus agréable qu'une classe ordinaire, pour le dire. On voit que très souvent les conclusions des textes sont positives et avec très souvent la référence de la bienveillance des professeurs. Finalement, l'UPE2A, c'est un lieu où l'on ne gaffe pas et où l'on n'affame pas, finalement. Le premier geste pédagogique du professeur d'UPE2A, c'est de donner à l'élève le jeu. En général, c'est la première phrase que dit un élève qui arrive en UPE2A, une phrase qui commence par « je ». C'est un lieu où l'élève est au centre des apprentissages, ce qui n'est pas une idée tout à fait révolutionnaire, mais en fait, si, elle l'est. Deuxième chose qui est conduit en Guyane, alors ça devait être conduit cette année, malheureusement ça ne l'a pas été, mais j'ai appris que l'expérience était vraiment prévue de façon ferme pour l'année prochaine et j'en suis très heureuse. Ce sont les ateliers de nourrissage culturel ou de médiation culturelle inspirés par la démarche de Serge Boismard. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. Donc c'est l'auteur de La peur d'apprendre, Serge Boismard. Cette expérience va consister dans un collège de Saint-Laurent-du-Maroni à utiliser, là pour le coup, des heures d'accompagnement personnalisées pour que la première heure de chaque journée soit consacrée à un atelier de médiation culturelle. La démarche, de façon très globale, hein, c'est de lire un texte dans une lecture offerte, un texte choisi pour ses résonances avec l'imaginaire de l'enfant, très souvent des textes mythologiques ou des contes, ensuite face à un groupe hétérogène bien sûr, hein. Ensuite de mener des échanges sur le texte avec l'ensemble du groupe présent. Et ça se termine nécessairement par un travail d'écriture très souvent lié à l'écriture d'invention. Cette expérience a pour but premier et affiché de réduire l'absentéisme, c'est-à-dire de faire en sorte que les élèves aient envie de venir. Et finalement, de restaurer donc ce que j'appelle un rapport heureux à la langue française. Et sans doute, en restaurant ce rapport heureux à la langue française, on restaurera au sein de l'école l'estime de soi des élèves, hein, que je présentais comme l'un des premiers soucis des élèves de Guyane. Beaucoup de professeurs de Créteil ont tenté des choses qui ressemblent à cela, dans une perspective un tout petit peu différente, peut-être un tout petit peu moins linguistique, mais sur l'idée de permettre à l'élève de reconquérir un accès à l'intériorité, savoir se poser des questions sur soi-même, et donc pour gagner en capacité de concentration, etc. Et je terminerai donc, ce sera la troisième et dernière ligne de cette présentation, par les préconisations pédagogiques récurrentes. Vraiment ce qu'on dit le plus souvent aux professeurs en entretien d'après les inspections, pour le dire tout très concrètement. Donc des préconisations concernant la maîtrise de la langue française. Et ici, je fais en fait très peu de différence entre les préconisations faites en Guyane et les préconisations faites à Créteil. On a donc parcouru les représentations liées à la langue par les élèves, celles liées à l'enseignement pour les professeurs. Donc ici, on va s'interroger il y a trois aspects. Ça va aller assez vite, vous inquiétez pas. D'abord, la question de la posture. Ensuite, la question de démarche. Et la question de gestes pédagogiques très précis. Alors, quant à la posture, ce que j'appelle la posture, qui est un mot un peu fourre-tout, mais finalement, l'un des premiers points, c'est le regard qu'on porte sur l'élève. C'est une évidence. L'attention accordée au regard que l'élève porte sur lui-même, sur son territoire et sur sa langue maternelle. En Guyane, très concrètement, vous l'avez compris, et c'est une chose que j'ai... C'est une chose que je n'avais pas tout à fait... Comment dire ? Il a fallu un certain nombre d'années pour que je m'en persuade tout à fait moi-même. Je trouve qu'il est tout à fait essentiel de faire rentrer de façon assez massive des textes porteurs d'un regard sur le territoire guyanais, dans les classes de Guyane, sur la propre identité des élèves, donc des contes amérindiens, des contes créoles, des poèmes tels que je vous les présentais tout à l'heure. Je vous le dis, j'ai mis un certain temps à m'en persuader parce que j'enseignais au lycée d'abord et que pour moi, il me semblait que finalement... la dimension littéraire des textes faisait qu'il y avait une forme d'universalité, que par conséquent les élèves de Guyane avaient accès à cette universalité comme tous les autres, et que aussi bien il était légitime d'étudier Damas dans l'Académie de Créteil, aussi bien ça n'était pas plus légitime de le faire en Guyane. Cette idée-là, je continue de considérer que Damas doit être étudié dans l'Académie de Créteil. Je continue de penser que Hugo et les autres doivent être étudiés dans l'Académie de Guyane, mais je pense vraiment qu'il y a un enjeu très fort de faire entrer de façon plus importante les auteurs guyanais dans les salles de classe. Encore une fois, j'en reviens de façon un peu obsessionnelle au poème de Stephenson, je ne veux pas qu'on m'instruise, l'idée c'est que je m'instruis, je ne veux pas qu'on me gave, je me nourris, et ce changement de regard, il est quand même favorisé par un regard que leur par le regard porté par par les auteurs guyanais. Le deuxième point, donc la libre circulation de la parole dans la salle de classe. Il ne s'agit pas de circulation déréglée de la parole dans la salle de classe, entendons-nous. Hein. Mais c'est vraiment ici une observation qui est liée à ce que j'appellerais quand même encore une forme de dimension hégémonique de la parole du professeur, qui est plus importante en Guyane du fait du manque de formation d'un certain nombre d'enseignants, très clairement, avec très peu d'interaction entre les élèves, avec une grosse réticence, une grande réticence à l'égard du travail collaboratif, parce que faire travailler les élèves en groupe de façon efficace, ça suppose des gestes professionnels bien rodés. L'îlot n'est pas une fin en soi. Et même quand on est dans une situation de face-à-face avec le groupe classe, l'hégémonie de la parole n'est pas une nécessité. Mais c'est ce qu'on observe encore trop souvent. Et puis, alors une chose là qui est vraiment aussi très forte à Créteil, quand on parle de gestion de classe, moi c'est un syntagme que j'ai du mal à supporter actuellement, il me semble qu'on fait en sorte que les jeunes professeurs en particulier se focalisent exactement sur les mauvais leviers. Quand on parle de gestion de classe, il y a une préconisation très angoissante, car quasi ontologique, hein, c'est vraiment qui on est, sur la fermeté. Il faut être plus ferme, il faut savoir se fâcher, etc. Bon. Et j'ai vu des professeurs qui, du coup, ne cessaient de dire chute pendant tout leur cours, sans penser un seul moment à donner des consignes plus claires, à davantage baliser leur séance, à ce que les élèves soient au clair sur les attentes précises à chaque moment du cours, etc. En gros, cette préconisation sur la gestion de classe, je la ferai glisser vers des préconisations didactiques, et je suis absolument convaincue que la plupart du temps, c'est bien là que réside la clé. Et pour revenir à cette question là sur la gestion de classe, il faut aussi, du coup, par rapport à ce qui se passe en Guyane, on était toujours très méfiant quand on envoyait un professeur néo-contractuel dans une équipe. On avait toujours très peur parce que souvent l'accueil dans l'équipe, c'était « alors pour ne pas te faire bouffer, il va falloir que… » etc. Et en fait, le professeur se posait du coup précisément toutes les mauvaises questions au début et entrait dans une posture qu'il est très difficile de déconstruire ensuite. Alors pour les démarches, ce que j'appellerais la dimension ludique, ici je pense en particulier à ce que je disais sur les UPE 2A, pour favoriser tout ce qui est échange informel, pour engager les élèves dans des apprentissages précis, ça peut être à l'échelle de n'importe quelle activité, hein. On peut introduire du ludique avec beaucoup de choses. Enseigner aux élèves une activité au collège par exemple, qui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes sur la prise de notes. On ne fait pas prendre des notes au collège à tout moment. Par contre, on peut faire une sorte de jeu sur la prise de notes avec des comparaisons entre les prises de notes d'élèves, avec des pièges qu'on va donner dans le texte qu'on donne à prendre en note, etc. Donc je passe. La dimension ludique. L'accent mis sur les démarches collaboratives. Je passe également. Ce que je disais tout à l'heure, le passage finalement du français comme langue morte à l'enseignement d'une langue vivante, et donc aller voir un peu du côté effectivement de la didactique des langues vivantes, du CECRL, etc. Et en particulier... Pardonnez-moi. Et en particulier, ce qui me semble très important, c'est de favoriser le travail de l'oral en réception. Les plus grands absents, c'est l'oral en réception et l'écriture en production, finalement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus lire et qu'il ne faut plus parler. Hein. Mais en termes de volume horaire consacré à ces compétences, je trouve que c'est vraiment ces deux champs de compétences qu'il faut valoriser. Finalement, quand je parle donc de travailler l'oral en réception, c'est faire entrer l'étude de documents authentiques dans les salles de classe, travailler sur la variation des codes de l'oral. L'idée, c'est qu'on brise en fait ce qui est conçu très souvent comme une chaîne linéaire et donc chronologique, lire, comprendre, interpréter. On va travailler les compétences comprendre et interpréter, même si on ne lit pas. Ça, c'est quelque chose d'absolument vital, sinon on entre dans le fameux cercle vicieux de tout à l'heure. Du coup, il me semble important de mettre un frein à la crispation autour de l'apprentissage du code. Quant à l'écriture, alors au collège, ce qu'on observe beaucoup en Guyane et à Créteil, c'est finalement l'absence de prise de conscience des professeurs sur le temps, le volume horaire consacré à la copie, au seul travail de la compétence de bas niveau, recopier un texte. J'omets même le sans faute parce que bon... Voilà, l'idée c'est... J'ai en tête par exemple des copies de brevets observés en Guyane qui paraissaient très belles, très propres, etc. Et en fait, avec tristesse, on se rend compte qu'il n'y a que les questions qui sont recopiées. Donc on a ici un élève qui, pendant toute sa scolarité, a travaillé une graphie parfaite, qui demande du temps, hein. Une graphie parfaite sans être jamais entré dans la lecture et sans finalement qu'on s'en soit sans doute préoccupé de façon judicieuse en tout cas. Et on imagine bien que cet élève, pendant ses heures de cours, a bien dû s'entraîner pour être capable de cette performance-là. Et ce sont des copies où on voit percer quand même une grande détresse. Et quand je parle de travail de production d'écrit, mais je pense que ça va de soi pour vous, on parle de choses qui se font très tôt, y compris en maternelle, par la dictée à l'adulte, etc. Hein. Toujours dans les démarches, finalement, mettre l'accent sur cette question d'appropriation. Et finalement, une des clés, même si ça paraît un peu évident, c'est le passage de la tâche scolaire à un enjeu personnel. Je pense qu'on aurait ici moins d'inégalités. Pardonnez-moi, je reprends ma casquette d'IIPR. Quand on présente ce qui se joue, vous savez, il y a eu un changement entre la façon dont était conduit le brevet des collèges jusqu'en 2013 et maintenant. Jusqu'en 2013, c'était beaucoup de questions fermées avec de l'étiquetage grammatical. Depuis 2013, il y a moins de questions, mais ce sont des questions ouvertes. Alors, ce que nous disent les professeurs, c'est qu'avant, les élèves scolaires y arrivaient bien, et les élèves dits non scolaires n'y arrivaient pas. Aujourd'hui, personne n'y arrive. Alors, effectivement, il y a moins d'inégalités, mais ce n'était pas ça qu'on visait. Mais ceci dit, je suis toujours persuadée qu'on vise la bonne chose et qu'on a même le bon moyen. Ce qu'on vise, c'est que tous les élèves puissent mieux réussir. Si on reste dans le questionnement fermé et les questions d'étiquetage, effectivement, on va toujours exclure les élèves qui n'entrent pas dans la tâche scolaire. En revanche, en visant ce qu'on vise aujourd'hui, mais en les préparant en amont, parce que c'est ça, et encore une fois, je ne jette pas la pierre aux professeurs, ils ont été très peu accompagnés dans ce changement, mais en les accompagnant en amont, les élèves, à répondre à ces questions ouvertes, je pense qu'on peut faire réussir davantage les élèves qui, traditionnellement, n'entrent pas dans les tâches scolaires. Et si on arrive à faire prendre conscience aux élèves que lire un texte, ça n'est pas une tâche, c'est une découverte, on ira déjà loin. Dans les démarches, et c'était aussi une conclusion du rapport de Christian Mindivé que j'évoquais tout à l'heure, favoriser les démarches culturelles et les projets interdisciplinaires. Christian Mindivé était en avance sur la réforme des collèges. Et puis mener, bien sûr, pour l'appropriation des apprentissages, une réflexion explicite avec les élèves sur leur évaluation. Ça paraît bien sûr essentiel. Je ne vais pas m'attarder sur ce point, mais vous voyez bien à quel point il est important. Pour les gestes pédagogiques, alors assez rapidement... Ce qui va être très important, je pense, et ce qui est très facile à observer, et je trouve que c'est intéressant comme point, puisque les professeurs peuvent faire très facilement de l'auto-observation. Est-ce que la question que je pose à mes élèves est fermée ou pas fermée ? Le critère, c'est est-ce qu'une réponse épuise ma question ? Ou est-ce qu'au contraire, ma question, telle qu'elle est formulée, permet qu'une réponse ne l'épuise pas, même deux, même trois, et qu'un échange dans la classe puisse s'instaurer ? En général, c'est quelque chose oui, que les professeurs entendent bien, puisque c'est un levier très facile à changer. On peut se corriger petit à petit assez facilement. Ensuite, il me semblait intéressant de présenter ce qu'on appelle au collège la démarche de la lecture analytique, alors assez rapidement. C'est un schéma, hein, il y a bien sûr d'autres possibilités. Ce qu'on appelle démarche de lecture analytique, finalement, ça ressemble un petit peu à ce que je présentais tout à l'heure sur les ateliers de médiation culturelle. C'est une lecture faite par le professeur. Or, on observe très souvent, quand les professeurs ne sont pas formés, la délégation de cette lecture aux enfants, avec des dommages collatéraux importants. Le recueil des impressions, l'échange interprétatif, des activités ensuite en autonomie et un bilan. Et alors, avec un code de couleur, je vous l'accorde, assez finalement confus. Ça nous permet de travailler en fait un nombre très important de compétences et de compétences, cette fois-ci non pas de bas niveau, de compétences d'interprétation essentiellement. Dans la lecture faite par le professeur, on est soit dans la compréhension orale, soit selon le choix que l'on fait, dans la compréhension orale et écrite. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est qu'un élève dit non lecteur en sixième peut entrer dans cette activité de compréhension orale. Par conséquent, il peut entrer dans la deuxième activité, le recueil des impressions. Et donc, il va travailler ses compétences de formulation orale. Alors, Petite remarque, quand je mets travail du lexique, mais ça, je pense encore une fois que vous savez, c'est cette erreur pédagogique, puisqu'on est dans les gestes concrets, hein, cette erreur pédagogique majeure qui consiste à demander « que n'avez-vous pas compris ?» Quels sont les mots que vous n'avez pas compris ? Donc, ce n'est pas du tout ça que je vise, évidemment. On évite de demander ça en premier. La question, c'est « qu'avez-vous compris ?» Mais on va aider les élèves à formuler. Par exemple, au lieu du « qu'avez-vous compris ?» qui n'est parfois pas très porteur, ou même du « quelles sont vos impressions ?» que les élèves saisissent mal, on peut demander à l'écoute de ce texte, à l'écoute de ce poème, que sais-je, chacun va se concentrer sur l'émotion qu'il ressent de la façon la plus vive, et surtout, trouver un mot pour étiqueter cette émotion. Et le fait de trouver ce mot, ça peut donner lieu à des activités lexicales. Vous voyez bien ensuite comment, à partir de là, l'échange interprétatif va se construire à partir des données de la matière fournie par les élèves. Et le professeur est là, dans un questionnement ouvert, pour dans une sorte de rôle d'accoucheur, hein, c'est vraiment cela, pour tirer l'ensemble des fils, faire se confronter les interprétations des élèves, etc. Une fois que le sens global du texte est élucidé, très important, on peut entrer dans des activités en autonomie. Et là, ça va être le haut lieu de la différenciation pédagogique. Tout le monde a travaillé la compétence de réception, de production orale et d'interprétation. À ce moment-là, on peut par exemple aller vers des questions fermées, de choses qui tiennent à cœur aux professeurs de français, puis ils ont raison, relever des figures de style, aller chercher des choses, des outils, voilà, qui vont nourrir ensuite un commentaire éventuel du texte. Mais pour d'autres élèves, on va travailler sur des relevés un peu plus faciles, et on peut même aller, du coup, là, jusqu'au travail du code. Je ne dis pas que c'est simple, hein, au sein d'une classe aussi comme ça hétérogène, mais en tout cas, ça me paraît finalement très souvent plus favorable. Et très souvent, cette activité de lecture analytique se conclut par un bilan où la classe travaille sa capacité à formuler à l'écrit, à synthétiser. Donc vous voyez, il me semble qu'ici, on a une sorte de schéma de séance qui peut en fait subir de très nombreuses variations et que j'ai souvent préconisé aux enseignants en Guyane, puisque ça permet de mettre en jeu des compétences variées et en général dans une démarche qui, même avec toutes les variations possibles, reste favorable aux élèves. Ensuite, une chose que j'ai un petit peu évoquée tout à l'heure déjà, donc je passerai assez vite, on passe bien sûr au collège des outils de la langue à une réflexion sur le fonctionnement de la langue. Dans les nouveaux programmes du collège, ceux qui vont être mis en œuvre à partir de la rentrée prochaine, de façon très explicite, et pour la première fois de façon très explicite, on a énoncé trois visées de l'étude de la langue au collège. Ces trois visées, c'est étudier la langue au service des compétences langagières. C'est la première. La deuxième, c'est étudier la langue au service de l'orthographe. Vous savez que la dictée reste, hein, au brevet des collèges. Et la troisième, c'est étudier la langue pour réfléchir au système linguistique. Et ce dernier point m'intéresse vraiment puisque il y a une forme de presque de chronologie. On ne réfléchit au système linguistique que quand on a mis en œuvre dans les diverses compétences langagières la langue. Et surtout, cette réflexion linguistique, c'est vraiment ça qui va nous permettre de passer du linéaire au spiralaire. C'est pas tout à fait nouveau, hein, c'est ce qu'on appelait au premier degré l'observation réfléchie de la langue. Mais c'est quelque chose qui n'a pas été approprié par les professeurs, ni en Guyane, ni dans les collèges cristoliens. Et du coup, on reste dans ce que j'évoquais tout à l'heure, le caractère désespérant de l'étude de la langue sur le mode des révisions. Ici, ce qui va être préconisé, et ce que je préconise beaucoup, c'est une expression qui a été beaucoup moquée. On se recentre sur des notions larges. Mais en fait, c'est tout à fait ça qui est en jeu. Se recentrer sur des notions larges, c'est progresser par complexification. Travailler sur l'accord sujet-verbe, mais dans des contextes de plus en plus complexes. C'est aussi travailler sur le fonctionnement normal de la langue, si j'ose dire, plutôt que sur les exceptions. Très souvent, l'enseignement de la grammaire focalise le regard des élèves sur les exceptions. Travailler sur l'autonomie, par exemple, face au lexique, c'est-à-dire travailler sur la morphologie des mots, sur les hypothèses, enfin, en lien avec les compétences de lecture, les hypothèses lexicales qu'on peut formuler sur un mot, etc. Avec le faisceau, on a l'indice de telle, on a tel indice morphologique plus tel indice contextuel et on formule donc des hypothèses lexicales, etc. Et enfin, ce fameux débat, puisque les élèves, ce qu'on a lu tout à l'heure, nous invite à y réfléchir sur les conjugaisons et la fin de l'approche tabulaire des conjugaisons. Vous avez peut-être entendu ce débat. Il a été question qu'on aborde, par exemple, plus que la troisième personne du singulier du passé simple. Pourquoi ? Parce que dans les textes qu'on lit globalement, qu'on fait lire aux élèves très souvent, il y a dans les récits, on n'a que la troisième personne. Scandale dans les formations des professeurs. Finalement, il y a ici sans doute une forme de caricature. On voit bien ce qui est en jeu. C'est peut-être un peu bizarre de n'enseigner effectivement que la troisième personne du passé simple. Mais ce malentendu-là, il vient du fait que c'est tout aussi absurde d'enseigner le passé simple de façon complètement tabulaire sans cette mise en œuvre-là. Ce qui va être aussi réinterrogé, c'est par exemple pourquoi insister tant sur le passé simple et finalement beaucoup moins sur le subjonctif présent. Alors qu'à l'oral, le mauvais maniement du subjonctif présent est très discriminant socialement. Dans un entretien d'embauche, une faute sur un subjonctif présent, ça tue. Mais le problème, c'est qu'on ne travaille pas le subjonctif présent à l'oral. D'où ce malentendu-là. Donc tout ça n'est pas... Les tensions demeurent, ça n'est pas facile à résoudre, mais engager cette réflexion-là me semble déjà porteur. Et finalement, le message que je porte actuellement dans les formations sur les nouveaux programmes, c'est que ce travail explicite sur la langue, là, la troisième visée de l'enseignement de la langue, finalement, ce qu'on cherche avant tout, c'est le fait que les élèves se disent à quel point il est heureux de bien comprendre la langue. C'est une vraie joie de savoir orthographier quelque chose parce qu'on a compris comment ça fonctionne. Mais à part ça, finalement, on est, je pense, tous bien d'accord que la question de la faute morale liée à la faute d'orthographe est quand même un petit peu dépassée. Donc on est vraiment sur ce bonheur de la compréhension de la langue. Et en guise de conclusion, une dernière pour la route, celle-là, parce que je la trouve chouette. Celle-là vient de Guyane, donc du lycée qu'on évoquait tout à l'heure. « Le français est une histoire compliquée mais simple. Le français est une belle langue, dit-on, une langue qui évolue au cours des années, ce qui fait sa beauté et sa richesse. » Mais qu'est-ce que je raconte ? Le français est une langue compliquée avec beaucoup de temps, passé, composé, imparfait, futur, de verbes à conjuguer, etc. Pourquoi une langue si belle est-elle si compliquée ? Mais le français n'est pas que complication. Comme je vous l'ai dit, c'est aussi une belle langue et très enrichissante qui nous apprend tous les jours de nouvelles choses. Ici, j'aime beaucoup l'hésitation palinodique, très révélatrice de ce rapport des élèves. En tout cas, ce qui me semble important, c'est de faire coexister au moins ces deux enjeux, la maîtrise de la langue française, mais le plaisir de la langue française aussi. Je vous remercie.